to the children's minister. Try to calm down.
Parole politique.
Yes, we can.
I'm going to show you how great I am.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?
Et oui, c'est le retour de Parole Politique. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur notre émission, cette fois-ci sur l'Afrique du Sud. Et on va parler aujourd'hui de l'apartheid. Du coup, non seulement on va voir l'émergence de l'apartheid en Afrique du Sud. C'était entre les Blancs et les autres races, si vous ne connaissez pas cette période de l'histoire. Mais il y avait aussi une période bien avant qui avait aussi des distinctions entre les deux races. Et c'est de ça qu'on va un peu traiter aujourd'hui. On va retourner dans le passé bien avant la fin de 1940 pour l'apartheid. On va revenir à l'époque de colonisation, etc. Du coup, voilà, il y a pas mal de retours dans le passé dans cette émission. Donc j'espère que vous êtes prêts. Aussi, à la fin de l'émission, j'ai une petite featuring avec Juanita. C'est une amie de ma famille, elle est sud-africaine. Et elle va parler d'une ferme des cheetahs, qui sont d'ailleurs une espèce en danger. Du coup, on a pas mal de choses à parler aujourd'hui. Du coup, on va lancer l'émission. Tout ça, c'est à venir très bientôt.
Two strong arms blessing the Babylon.
pris des années pour trouver ce morceau. C'est Nick Kershaw, c'est The Riddle. Du coup, ça a beaucoup longtemps depuis que ça s'est diffusé, cette chanson. Elle est super, j'adore. Ça fait, je sais pas, 2 semaines depuis que je l'écoute non-stop. Donc, du coup, avant la chanson, je vous avais proposé de retourner dans le passé bien avant l'apartheid. Du coup, on va un peu regarder le pre-apartheid. Voilà, donc ça, c'est au 17e siècle, avec le découvert du monde. Donc, il y avait beaucoup des pays européens, comme par exemple l'Espagne, la Grande-Bretagne, même la France, il me semble, qui sont allés à la recherche de la conquête des nouveaux terres. Donc, une des grandes découvertes, c'était bien sûr la découverte de l'Inde, avec toute la commerce que cela ouvre pour les différents pays européens, avec les épices, par exemple. Du coup, ça c'est une chose qu'il faut bien retenir en tête, c'est-à-dire que les pays européens vont chercher à découvrir des façons le plus rapides pour faire de A à B, c'est-à-dire d'aller de l'Europe à l'Asie de l'Est. Voilà, donc c'est une quarantaine d'années après l'Inde que c'est pas le découvert parce qu'il y avait d'abord des peuples dans le sud d'Afrique du Sud, mais bien sûr c'est les Européennes, certainement pas les Britanniques, ça va être cette fois-ci la compagnie néerlandaise des Indes orientales qui vont découvrir la Cape. Si vous savez pas, c'est une ville très grande dans le sud de l'Afrique du Sud, et ça c'est au milieu du 17e siècle. C'est une location très très importante pour eux parce que elle va représenter une location pour se reposer sur leur voyage à l'Inde. Donc, il faut aussi se rappeler qu'il faut qu'ils passent en dessus de la continent, en dessus de la continent africaine. Et du coup, ça les donne une espèce de pause entre une très longue période. Le voyage, ça va durer quelques semaines. Du coup, ils ont le temps pour se reposer, pour c'est un endroit très très bel. Du coup, le peuple qui vont se décider de rester là-bas, les Néerlandais, on va les appeler les Boers. En français, on les appelle les paysans, mais il me semble la traduction n'est pas très exacte, mais enfin, on va les appeler les Boers. Et c'est dans les siècles qui suivent que les forces britanniques, eux aussi, vont découvrir cette belle pays qui s'appelle l'Afrique du Sud. Et cela va aussi commencer la friction entre les Boers qui sont là-bas et les Anglo. Du coup, on va avoir la guerre Anglo-Boer entre les deux pour être localisé là-bas. Et enfin, ceci va mettre les intérêts des indigènes, ceux qui étaient déjà là-bas, les natifs d'Afrique du Sud, du côté. Donc, cela peut être peut-être comme les premiers signes de l'apartheid en quelque sorte, parce que c'est les intérêts des natifs, c'est les intérêts des indigènes qui va être mis de côté pour cette guerre entre les Anglo et les Boers. Et ça va vraiment nous mener à se dire que peut-être que l'apartheid, ce n'est pas vraiment une nouvelle chose. Mais c'était une chose développée depuis plusieurs années, ceci en étant la grande découverte de l'Afrique du Sud, les mises à côté des intérêts des indigènes, et après on va continuer à augmenter, et enfin on va finir avec cet apartheid, il me semble en 1948, ça c'est à voir. Donc en 1902, c'est les Britanniques qui vont défaitre les Boers, et ils vont les soumettre à des termes assez faibles du traité de Vereeniging. Donc en 1910, il y a la union des colonies pour créer ce qu'on va appeler l'union de l'Afrique du Sud. En gros, il y avait plusieurs, je pense qu'il y avait 4 ou 5 régions qui étaient séparées dans l'Afrique du Sud, et c'est cet pacte de 1910 qui va finalement intégrer ces 4 ou 5 colonies dans une dominion de la Grande-Bretagne. Ça c'est aussi intéressant, c'est que les Noirs et les autres de races mélangées, on peut dire, de races mixtes quoi, eux, ils auraient pas mal de droits quand même dans cette période, comparé à ceux qui vont bien survenir dans la fin du XXe siècle. Le seul problème, c'est dans le secteur politique où ils ne peuvent pas voter. Mais dans la CAP, la région de la CAP, ça s'appelle pas la CAP, ça s'appelle autre chose, mais en gros, eux, ils vont, c'est un peu plus libéral, c'est-à-dire qu'ils vont quand même avoir beaucoup plus de droits que qui sont dans les autres régions, dans les autres colonies, voilà. Un truc que je voulais aussi dire, c'était que c'est la, à la fin de, du le dernier premier ministre de la CAP, John X. Merriman et Sir Walter Stanford, eux, ils avaient battu, bien sûr, pour les droits des races mixtes, pour aider les autres colonies, bien sûr, pour donner eux aussi le droit de voter, mais malheureusement, ces efforts ne seront pas récompensés, et voilà. Donc ça, c'était Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Du coup, on va avoir maintenant l'approche de la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, en effet, qui va se lancer. Du coup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que maintenant, l'Afrique du Sud, bah, on l'appelle l'Union de l'Afrique du Sud, il me semble. C'est, en effet, ce serait maintenant une dominion de la Grande-Bretagne. Et en effet, la Grande-Bretagne, eux, ils sont, ils vont disputer cette deuxième guerre mondiale. Et du coup, toutes ces dominions vont devoir aussi aller se battre avec eux. Du coup, cette liaison s'est bien sûr disputée par le Premier ministre Herzog en 1939, genre juste au début de la Deuxième Guerre. Et il était lui-même un membre de la partie nationale, c'est-à-dire pro-africaine et anti-britannique. Donc lui, il n'a pas envie de lancer l'Afrique du Sud dans cette guerre. Mais les politiciens pro-britanniques, eux, ils vont bien vouloir que l'Afrique du Sud participe. Du coup, il y a une grande débat furieux qui va commencer dans les parlements. Et les pro-britanniques sont menés par Smuts versus la anti-guerre qui sont menés par Herzog. Donc, cette déclaration de la guerre sur les nazis en 1939 pose un autre problème. Ce problème, c'est intéressant parce que seulement 553, un peu plus que 5300, pardon, des soldats sud-africains seront des réguliers de l'armée. Et même une somme de 14 000, un peu plus de 14 000, sont des forces citoyennes. Du coup, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas une très grande armée. Eux aussi, ils étaient très mal équipés parce que ceux qui étaient des forces citoyennes, parce qu'eux, ils n'avaient pas vraiment cru qu'ils allaient devoir se battre en dehors de la territoire de l'Afrique du Sud. Du coup, c'est ici un autre problème pour eux qui vont se poser. Mais la plus grande chose qu'il faut garder en tête, c'est que ils n'avaient pas envie que l'armée soit remplie du peuple noir. Du coup, seulement les Européens blancs avaient le droit de prendre les armes. De plus, ils doivent être des hommes entre 20 et 40 ans. Donc seulement 3200 personnes seront disponibles. Et cela va poser des très grands problèmes pour l'Afrique du Sud qui va s'ajouter à cette confliction entre les noirs et les blancs, cette friction, et finalement, oui, qui va bien sûr finir par cette apartheid. De coup, moi je vais expliquer ça, mais juste avant, on va maintenant lancer cette chanson Corner Shop, Brimful of Asher, qui date d'ailleurs des Britpop, c'est en années 90, très populaire dans la Grande-Bretagne.
about no government warning about the promotion of the sick life of the damn fair building. Grim food, Asher on the 45. Well, it's a grim food, Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song was 45.
Ça c'était The Corner Shop, super chanson, moi ça me rappelle de mon enfance. Oui, je me demandais pendant que j'écoutais la chanson si vous avez entendu cette chanson en France. Moi il me semble que non, mais j'étais très jeune quand cette chanson est venue, du coup c'est possible, je vais demander Manu après. En tout cas, ce qui, oui, j'ai, avant la chanson, j'avais dit qu'il y avait une chose intéressante qui a mené que la Deuxième Guerre mondiale soit une élément très pertinente dans le fait de comprendre pourquoi il y avait cet apartheid. Du coup, pour aller à la guerre, les Blancs qui dominaient le cercle politique et économique de l'Afrique du Sud, ils étaient enlevés de leurs emplois pour les permettre d'aller à la guerre pour aider les Britanniques contre les nazis. Du coup, cela va nécessiter que les peuples de race indienne, mixte et éventuellement noire qui vont être choisis pour les remplacer dans les entreprises. Une petite surnote, c'était que il y avait même une hiérarchie, c'était pas juste blanc ou non blanc, il y avait tout d'abord c'était les blancs, puis c'était les races indiennes ou mixtes, et éventuellement à la fin c'était noir. Du coup il y avait même une apartheid dans l'apartheid, si on peut dire comme ça. Donc nous avons une sorte de migration du nord vers le sud de la peuple noir indienne mixte pour remplacer les blancs. Et ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'était dans cette époque, les noirs, ils étaient mis dans les régions un peu plus nord. Les côtés de la mer, ils étaient plutôt l'endroit où les blancs, les européens vont se mettre. Du coup, eux, ils étaient poussés vers le nord. Et maintenant, vu que les emplois se libèrent, ils vont légèrement revenir vers le sud. Mais cette migration des Noirs, cette forte migration d'ailleurs, ce n'était pas reconnu par le gouvernement sud-africain. Et du coup, il y avait un manque des ressources, c'est-à-dire du logement, des services sociaux, etc. Et cela va se mener à une surpopulation et aussi une augmentation des actes criminels parce qu'il n'y en a pas assez de ressources pour tout le monde. On va devoir prendre des mesures plus fortes pour le survivre, pour gagner notre vie, etc. Donc ces changements ont mené les Blancs à être persuadés, quand ils reviennent d'ailleurs de la Deuxième Guerre mondiale, que tout n'est pas bien et que la partie nationale va les persuader, en effet, les parties nationales qui sont africaines, qui sont... eux, après, ils vont mettre l'apartheid, mais ils vont les persuader tout d'abord que l'Afrique, l'Afrique du Sud a s'est soumise, a succombé d'ailleurs à l'influence de l'Ouest. Une notion très importante, donc on va voir ça de suite. Après Madonna, Like a Prayer.
I can feel your power.
Ça, c'est Like a Prayer par Madonna. C'était diffusé en 1989. Et juste pour donner un peu de contexte à cette chanson, c'est une chanson très importante pour la période. D'ailleurs, c'était un des plus controversiales chansons de Madonna parce que c'était la vidéo qui était faite pour cette chanson, c'était où Madonna, elle était le témoin d'une fille blanche par les suprémistes blancs. Et c'était en effet elle voit qu'un homme noir a été arrêté pour cet meurtre, condamné d'ailleurs, et il y a Madonna qui va se cacher dans l'église pour chercher le pouvoir, pas le pouvoir mais l'énergie pour aller lancer un témoin devant les tribunaux, voilà. D'ailleurs, c'est le Vatican, elle avait condamné cette vidéo pendant que la famille et d'autres groupes religieux ont protesté son diffusionnement. Et le Pepsi, si vous voulez, Pepsi avait utilisé cette chanson dans un de leurs commerciaux, mais vu qu'il y avait un gros boycott contre leur boisson, ils ont dû finir leur contrat avec Madonna à cause de cette vidéo, en effet. Du coup, c'est une vidéo très importante, voilà. Moi, maintenant, on va se lancer sur l'apartheid parce que déjà, on a 30 minutes d'émission déjà faite. On n'avait pas vraiment regardé l'apartheid soi-même. Du coup, en 1948, après cette friction entre les Noirs qu'ils ont pris les jobs, les emplois des Blancs, qu'ils étaient eux-mêmes allés faire de la guerre contre les nazis, le Parti National a pris le pouvoir. Et eux, ils sont pro-apartheid. Et ils ont implémenté 148 lois de l'apartheid. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'apartheid? En tout, il n'y a pas une translation du mot exact. Moi, j'ai dû un peu rechercher et moi, j'ai trouvé que c'était un mot africains, et ça veut dire en effet séparation, individualité. Donc la façon que c'était présenté, ces lois, ce n'était que c'était un développement des droits égaux, l'expression libre, mais en effet, ça veut tout dire au contraire, voilà. Et c'est les lois de l'apartheid qui ont forcé les groupes radicaux à vivre séparément ensemble. Les groupes raciaux à vivre séparément ensemble. Et donc, ils se développent séparément, c'est-à-dire il y avait une quartier pour les blancs, un quartier pour les noirs, un quartier pour les indiennes, un quartier pour les races mixtes. Du coup, ils n'avaient pas beaucoup de mélange entre les différents groupes. Et ce qui est notable, c'est qu'ils ont arrêté le mariage interracial et l'intégration sociale. Voilà. Donc même le fait d'avoir des amis d'une autre race peut augmenter la suspicion contre vous-même, ou même pire, peut-être des condamnations. Voilà. Juste pour vous donner quelques-unes de ces 148 lois de l'apartheid, voici certains qui sont les plus importants. Donc il y avait l'acte de registration de la population en 1950, c'est-à-dire qu'il fallait registrer en accord des groupes raciaux. Donc si tu es blanc, tu dois aller à le gouvernement dire « moi je suis blanc » et eux ils vont dire « alors vous êtes blanc ». Et ils vont le noter sur la liste. Et du coup, moi, je suis noir, je dois noter. Et du coup, ils avaient la possibilité de classer les gens selon la couleur de leur peau. Il y avait aussi l'acte des zones des groupes en 1950. C'est-à-dire un acte qui a créé la séparation physique entre les différentes races qu'on avait parlé juste avant. Surtout dans les espaces urbains, tels que la CAP. La CAP, c'est très important. D'ailleurs, c'était très libéral avant, mais maintenant elle va devoir succomber à cette gouvernement de la partie nationaliste. Il y avait aussi la promotion of Bantu Self-Government Act. J'ai pas trouvé la translation, du coup voilà en anglais. Et c'était en 1959 et elle aide la séparation entre les différentes races aussi. Donc c'est juste un support à cet acte des zones des groupes. Aussi l'interdiction de la mariage entre les différentes races. Ça c'était en 1949, l'acte d'immoralité en 1950 et la réparation différente des votes en 1951. Voilà, pour attaquer la côté politique des différents groupes raciaux. Voilà, pour les, il n'y avait pas le droit de vote pour tous en ce moment. Ça c'est Love Me Like You Do and See You Again. C'est un mashup que j'ai trouvé sur YouTube. Elle est super bien. Donc j'espère que vous l'aimez.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. So love me like you do.
Like You Do and See You Again, c'est un mashup sur YouTube, super chanson, j'adore ce qu'ils ont fait avec. Du coup maintenant, parce que on avait dit qu'il y avait les lois de l'apartheid, les mêmes les 148 lois de l'apartheid qui se sont introduites par le parti nationaliste de l'Afrique du Sud, il y avait quand même un peu de résistance. On va pas dire que c'était facile pour le gouvernement d'appliquer cet apartheid. Le nom qui vient surtout à l'esprit, c'est Nelson Mandela. Dans cette émission, il y a tellement de choses à dire sur Nelson Mandela, on n'a pas le temps pour vraiment traiter cet homme fascinant. Du coup, je n'ai pas vraiment posé sur Nelson Mandela lui-même, mais juste un peu plus brièvement général sur la résistance elle-même. Donc, il y avait la résistance internale. Avec quelques secteurs indépendants de société qui ont pris la forme des mouvements sociaux. Eux, ils vont devenir des mouvements sociaux, c'est-à-dire juste comme ce qu'on a vu dans les années 60 même aux États-Unis. Il y a aussi la résistance pacifiste. C'est possiblement basé sur ce que Gandhi avait fait contre les colonies britanniques. Et aussi que les warriors guerrilla, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus violents, qui vont utiliser la violence pour la but de finir cet apartheid. Donc en effet, ces démonstrations contre la partie nationale sont ajoutées d'ailleurs par l'isolation internationale, qui va finalement être les deux instruments qui vont finir l'apartheid, mais quelques années en avance. Quelques exemples des événements importants dans l'apartheid, c'était The Defiance Act, l'acte de défiance en 1952. C'était une résistance pacifiste initiée par le ANC, African National Congress, le Congrès national africain, mais suivant ceci, les désobéissances des citoyens ont de cible les lois de passage et la ségrégation dans les domaines publics. D'autres protestations ont été d'ailleurs plus violentes, surtout aux portes d'Elizabeth, puis à Londres. Mais celui-ci, le Defiance Act, c'était plutôt quelque chose de pacifiste, il n'y avait pas vraiment de violence. Oui, d'ailleurs, aux portes d'Elizabeth et à Londres, il y avait bien sûr des dommages envers les bâtiments. Et c'était un acte. Mais il n'y avait pas vraiment d'acte conscient avant 1959. Genre acte conscient avec la violence. Mais aussi le massacre de Sharpeville, surtout quelque chose que vous avez entendu. Ça marque un grand changement dans la dynamique de l'apartheid, et c'était dans les stratégies de certains groupes anti-apartheidistes, par exemple le ANC et aussi le PAC, des organisations non coopératives à la formation d'un, et qui ont créer finalement une côté résistante. En gros, il y avait une manifestation contre les Passed Laws. Donc ça, c'est toujours Sharpeville, rappelez-vous. Donc il y avait un groupe de 5 000 à 700 000 manifestants noirs qui sont allés à la station de police pour contester ces Passed Laws. Et les policiers les ont tirés dessus et ont causé 69 morts. Certaines sources ne sont pas d'accord selon le comportement du groupe. On ne sait pas si c'était une manifestation violente ou pas, mais ceci marque un grand changement parce qu'il y avait maintenant de la violence, que ça soit initié ou non par les manifestations, c'est toujours des morts. Et voilà, ça va commencer à serrer la pression internationale sur les gouvernements nationalistes. Donc maintenant, Natasha Bedingfield qui va nous jouer la chanson Pocket Full of Sunshine, Natasha Bedingfield. Bon écoute. Yeah.
and I call it home. And there's no more lies in the dark of Memphis life. And nobody cries, there's only butterflies.
Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine, super chanson. Pardon pour le problème technique juste avant, mais je pense que ça valait la peine d'attendre pour cette chanson. Super. Donc, les relations internationales, j'ai beaucoup parlé de la pression mise par les forces internationales, genre par exemple les Nations Unies, d'autres grands joueurs, par exemple les États-Unis de Reagan et le Royaume-Uni de Thatcher vont aussi mettre leur point de vue envers l'Afrique du Sud en cause. D'ailleurs pour les Nations Unies, eux ils ont appelé pour un embargo total de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire aucune relation économique avec eux. Par contre, Reagan et Thatcher, eux vont chercher plutôt à une politique d'engagement constructif. Derrière ça, on a aussi l'envie de garder les forces marxistes loin de l'Afrique du Sud. Il faut se rappeler que c'est pendant la guerre froide aussi. Et du coup, un faiblissement de l'Afrique du Sud va peut-être l'ouvrir la porte à les communistes d'y s'y mettre dedans et peut-être rendre l'Afrique du Sud communiste. Il faut aller loin, mais la possibilité reste toujours. Ils avaient vu avec Grèce d'ailleurs, ils ont dû donner de l'argent avec le Marshall Plan, etc. Du coup, la guerre froide, ça reste un événement très 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 important dans cette période. Moi, je veux juste vous dire de suite qu'il y avait des sanctions économiques, des libérations d'une certaine Nelson Mandela. Ça, c'est ce qu'ils ont dit en 1989. J'insiste qu'ils avaient changé un peu leur côté en 1989, c'est-à-dire qu'ils ont plus supporté cet régime apartheidiste, donc ils ont changé dans le temps, et ils ont demandé plus de choses importantes, dont les sanctions économiques, les libérations d'une certaine Nelson Mandela, très important, qui va d'ailleurs devenir le président de l'Afrique du Sud, les négociations qui incluent la ANC, la Conférence des Nations Africaines, ça c'était Reagan, les États-Unis. Pour le Royaume-Uni, ils ont fait tout, sauf qu'ils ont appelé aussi pour l'arrêt de la côté militante de la ANC, parce qu'ils avaient une histoire du terrorisme. Donc ça, c'est ce qu'ils ont demandé. Donc il y avait l'action économique de la part des États-Unis et la Grande-Bretagne qui avait peut-être, on va dire, joué un rôle, possiblement résolu cet apartheid. Mais ce qui est intéressant, j'insiste dessus, c'est que aucune des deux pays n'avait envie vraiment de mettre des sanctions économiques dessus. Possiblement, je ne suis pas né à cette période, mais je dis possiblement parce qu'ils avaient aussi des intérêts économiques dans les entreprises d'extraction minière. L'Afrique du Sud qui est fortement riche en minéral, etc. Du coup, une arrêt complètement avec cette extraction minière va surtout attaquer les économies britanniques et les américains. Du coup, on voit bien, tous les pays sont en effet liés les uns aux autres. Maintenant, je vais lancer une interview avec Juanita. Elle va nous parler de Anne Van Dyke Cheetah Center, autrement dit le Devout Cheetah Center. C'est un centre pour les cheetahs, les cheetahs, pardon, de se, d'y s'y remettre. Donc, je vous laisse expliquer. C'est en anglais, par contre, du coup, ouvrez le dictionnaire, faites un effort pour entendre ce qu'il a à dire parce que c'est des choses super, très intéressantes.
The Devout Cheetah Rehabilitation Center was started by Anne Van Dyke, and it was actually also called the Anne Van Dyke Center for until very recently. It was started by Anne Van Dyke in 1971. Her and her husband lived on a farm in the Devult area, which is about 40 minutes drive outside of Pretoria on the way to Sun City, near the Brits area. And it's a farming community, and they had a big problem with specifically injured or sick cheetahs hunting on the farms. And what would happen traditionally years ago was that the farmers would just shoot them. And Anne became very aware of the cheetahs becoming endangered, and she obviously being a big conservationist. She decided this is not a good thing. So somehow she convinced her husband to say that they would take on these cheetahs, and they built special areas. And after her husband passed away, she actually turned the farm into initially a rehabilitation center only. And later it became a conservation center. So what would happen is the farmers would just phone them, and they would go and pick up, you know, they would go and catch the cheetahs and take them to their farm. And very often they found that they were either injured or had some sort of a disease, sick or so, because otherwise they wouldn't normally get quite that close to the farms. Mm. But they would come to the farms under those conditions because it's so much easier to hunt on the farm. So they would, you know, they would catch all the cattle. And so that's how it started, and it's grown into a really large rehabilitation center, but now also a conservation center. After a couple of years, I also started taking in the African wild dog, which is now endangered as well. And they have they've got quite a big pack of wild dogs now. And they have in recent years also established a part of the farm, allocated a part of the farm, which they've turned into like a vulture for the vultures, like a vulture area. And they take the Cape vultures, which are injured. They get them from all over the country, and they've got proper staff on the farm as well. They've got veterinary nurses, and they have got a number of vets on standby. So that if anything happens to the animals, they can just take them straight to the vets if they can't be nursed, cared for by the nurses on the farm. They have got qualified game rangers working for them as well. They do guided tours and things like that as well. Yeah. They've got, and then apart, those are the three main areas, and then they have got a couple of other animals, which is just, which sometimes just ends up there on the farm because they are the only sort of facility in the area you can take care of these injured animals. They do at one stage they had a crane as well. They had two cranes actually. I think they've moved on now again. When the animals, they do keep some of the animals for breeding. So I think since the inception of the project in 1971, they have more than 800 cheetah cubs that have been born on the farm. They also have the paws. They also have the king cheetah. They've got a number of king cheetahs on the farm as well. So the animals from the farm, once they're rehabilitated, they very seldom actually get released back into the wild because they can't really look after themselves anymore, because once they've been fed,
they lose
their hunting instincts and all of that. So very seldom. There are a few that are who are capable, and they do get released back into the wild. But more often than not, it's not the case. Especially the ones who are used for breeding purposes as well. They do sometimes sell some of the rehabilitated animals. most often to international zoos or private game parks in South Africa as well as internationally as well. So they do amazing work. They do have a sponsorship program as well where you can pledge money monthly, annually, or one lump sum. You can actually adopt a little cheetah, which is quite cool. It's in South African rand, so it's not a lot of money. It's worth looking into. So if you look on the Anne van Dijk website, that's Anne, new word van, D-Y-K is the last word, Anne van Dijk, that's her, van Dijk being the surname. It's very interesting and it's really well worth a visit.
Brilliant. Thank you very much, Monita.
It's a pleasure.
Ça, c'était Monita. C'était super gentil pour elle de venir m'aider dans le dans cette émission. Ouais, super interview, j'adorais. Et si si vous avez entendu, si vous voulez peut-être adopter un petit cheetah, vous êtes les bienvenus. Il faut juste aller sur le site web de Develt Cheetah Center. Je pense que le site web c'est même Anne van Dijk Cheetah Center. Donc allez-y. Du coup, la partie a été détruite lors d'une série de négociations entre 1990 et 1993, avant les élections en 1994, derrière les élections qui vont voir Nelson Mandela élu président de l'Afrique du Sud. C'est important parce qu'il y avait toutes les 20 millions d'habitants de Sud-Africains qui ont pu voter. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on a pu avoir une... l'élection de la première présidente noire de l'Afrique du Sud. On a un problème avec les temps de coup. Je vais vite, pardon si, si ça vous gêne un peu, mais j'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, je l'ai adoré, ça m'a fait beaucoup de bien à le faire. Du coup, merci beaucoup. N'oubliez pas, tous les premiers vendredis du mois, donc la prochaine fois, ça va être en mars. Et n'oubliez pas de liker ma page Jake Eaton Radio sur Facebook pour toutes les émissions, les nouvelles, etc., etc. Donc merci à vous tous et à bonne soirée.
Yes, we can.
I'm going to show you how great I am.
Well, I have to say, you're not laughing now, are you?